Le rayon BD, 2020, année de la bande dessinée.
Partout dans le monde, la presse écrite, le mot et la télévision, l'image s'invective et se mène la vie dure. Pourtant, il est un secteur où le mot et l'image font depuis belle lurette bon ménage, la bande dessinée.
Bonjour, bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour cette première émission de l'année 2020. 2020 qui sera en France l'année de la bande dessinée, ainsi en a décidé le ministère de la Culture, qui lancera officiellement à Angoulême à la fin du mois de janvier l'opération BD 2020, sous-titrée « La France aime le 9e art ». Si personne dans cette émission, ni à France Culture, ni nulle part en fait, ne doute de cet amour de la France pour le 9e art, nous avons voulu savoir ce que serait cette année de la bande dessinée, qu'est-ce que cela veut dire de déclarer une année de la bande dessinée, comment est-ce que ça va se manifester, comment est-ce que ça va se concrétiser. Il se trouve que le ministère de la Culture a confié les rênes de ce projet à deux organismes, le Centre National du Livre d'une part, le CNL, et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, la CIBDI, d'autre part. Et je reçois aujourd'hui, dans le rayon BD, la directrice générale du CNL, Emmanuelle Ben-Simon-Veller, et le directeur général de la CIBDI, Pierre Lungheretti. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous allons donc parler avec vous aujourd'hui de cette opération BD 2020, du programme des manifestations, du secteur de la bande dessinée en général, des actrices et des acteurs de ce secteur, auteurs, éditeurs, distributeurs, libraires, lecteurs, et du soutien qu'apportent les institutions à ce secteur, dont vous nous direz d'ailleurs s'il est en bonne santé. Mais je voudrais commencer en rendant un hommage à une personnalité importante de l'histoire de la bande dessinée en France. Il n'était ni auteur ni éditeur, il était plutôt justement du côté des institutions, puisqu'il était homme politique. Il a été longtemps adjoint au maire de la ville d'Angoulême, chargé des affaires culturelles. Et il fut avec Francis Groux et Claude Moliterni l'un des fondateurs du Festival d'Angoulême en 1974, festival dont il a été longtemps président. Il s'appelait Jean Mardiquian et il est décédé la semaine dernière. Nous l'écoutons dans une archive de 1990.
Jean Mardiquian, bonsoir. Vous êtes le président du Salon de la Bande Dessinée. Vous êtes adjoint au maire d'Angoulême. Alors, est-ce que les réalisations sont suffisantes pour que Angoulême puisse prétendre être la ville des images ?
Les réalisations que l'on vient de voir ne sont certainement pas suffisantes, du fait même des enjeux qui existent, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et même au Japon, bien sûr, Angoulême reste une petite ville, une ville moyenne, mais en cela, elle a des ambitions. Ces ambitions, elles viennent le prouver avec l'inauguration du CNBDI, et puis le Conseil Général, avec son projet dont l'étude de faisabilité est en cours, qui veut réaliser la cité de l'image.
Alors justement, est-ce que le CNBDI n'est pas en train de devenir un peu un mausolée où on parle de bande dessinée mais on ne regarde pas le futur ?
Un mausolée, ça veut dire le culte du passé, ça veut dire le culte du souvenir. Le CNBDI, c'est véritablement une projection dans l'avenir, tant sur le plan de la formation que sur la production et la recherche.
Jean Mardiquian, on vous retrouve dans un instant. Pour la première fois cette année, le salon de la bande dessinée d'Angoulême est payant. Une révolution culturelle qui étonne, voire qui en exaspère certains. Patrick Ferrand et Dominique Carreau sont allés voir.
Alors Pierre Lungheretti, je ne vais pas vous interroger sur les entrées payantes au festival d'Angoulême, mais vous qui avez connu Jean Mardiquian, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus personnellement le rôle qu'il a joué, qui il était, le rôle qu'il a joué dans la bande dessinée en France ?
Alors, il est l'un des trois cofondateurs du Festival d'Angoulême dès 1974, qui a été précédé par ce qu'ils avaient appelé les Jeudis de la bande dessinée dès 1972, si ma mémoire est bonne. Et Jean Mardiquian était vraiment l'artisan de la transformation d'Angoulême en un pôle mondial de la bande dessinée, mais un pôle mondial aussi au plan de la culture. Il a œuvré pour plusieurs manifestations au-delà du festival, puisque Musique Métis lui doit aussi beaucoup, Piano en Valois lui doit aussi beaucoup, et évidemment là l'archive que vous avez présenté à l'occasion de l'ouverture du Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image montre à quel point il s'est engagé en faveur de l'enracinement de la bande dessinée à Angoulême au-delà du festival, puisque il a été président pendant plusieurs années, pendant presque 20 ans du Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image, et il s'est engagé pour que cette association soit transformée en établissement public, donc de manière à renforcer son ancrage institutionnel et sa durabilité.
durabilité. Alors ce Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image est devenu depuis Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image. C'est l'institution que vous dirigez et qui copilote avec le Centre National du Livre, je l'ai dit, 2020 BD, donc l'année de la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est aujourd'hui que cette Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, dans son travail ordinaire, quand ce n'est pas l'année de la bande dessinée, que fait la CIBDI?
Alors, la Cité est un établissement assez atypique puisqu'elle rassemble le seul musée existant en France de la bande dessinée, qui est labellisé Musée de France et qui rassemble les deuxièmes collections du monde, avec 15 000 planches originales et à peu près 250 000 imprimés patrimoniaux.
Où est la première collection, juste ?
Elle est au musée Billy Island de l'Université de l'Ohio. Qui est très au-dessus en termes de masse de documents conservés. Mais nous avons, nous, une collection qui est assez large et qui représente très bien la tradition des comics américains et la tradition franco-belge, notamment. Ensuite, la cité a une bibliothèque, qui est à la fois une bibliothèque de lecture publique, une bibliothèque patrimoniale, un centre de documentation, une maison des auteurs, qui est une sorte de Villa Médicis consacrée à la bande dessinée, qui accueille une cinquantaine d'auteurs en résidence chaque année, dont un grand volume vient de l'étranger. Un cinéma à RSC avec deux écrans. Et puis des espaces d'exposition, parce qu'on n'a pas loin de 12 000 mètres carrés. Et tout ça en fait un établissement qui accueille à peu près 200 000 visiteurs chaque année. Qui produit des expositions tout au long de l'année, qui fait un gros travail de transmission avec des programmes d'éducation artistique et culturelle à la fois sur le territoire charentais et néo-aquitain, mais aussi dans plusieurs territoires de la France entière, et qui mène également une action internationale puisqu'on a une quinzaine de partenariats internationaux.
Alors l'autre organisme qui dirige cette année de la bande dessinée 2020, c'est le Centre National du Livre que vous dirigez, Emmanuel Ben-Simon-Veller. Alors, même question qu'à Pierre Lungaretti, qu'est-ce que c'est que ce Centre National du Livre en quelques mots, et puis que fait-il pour la bande dessinée en général dans son fonctionnement ordinaire?
Alors, le Centre National du Livre est un établissement public du ministère de la Culture qui a été créé en 1946, juste avant le Centre National du Cinéma, et dont la mission principale est de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre, les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs qui sont des auteurs, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires et les organisateurs de manifestations littéraires. Et il le fait par l'intermédiaire d'une vingtaine de dispositifs d'aide qui bénéficient donc à tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc ça, c'est sa mission principale. Donc,
aide à l'écriture, aide à l'édition.
Exactement, à l'organisation de manifestations littéraires. Et donc traditionnellement, enfin dans ses missions habituelles, le CNL soutient la BD puisque après avis d'une commission BD qui est aujourd'hui présidée par Catel, cette commission donne des avis sur des projets d'éditeurs, d'auteurs, et donc le CNL alloue près de 250 aides, auteurs éditeurs confondus, donc pour près de 1,5 million d'euros sur un budget d'intervention de l'ordre de 20 millions d'euros.
Très bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur ces deux institutions qui vont piloter cette année de la bande dessinée, on voudrait en savoir un peu plus sur cette opération. Qu'est-ce que c'est exactement que cette année de la bande dessinée? D'ailleurs, je dis opération, mais je ne sais pas si le terme est adéquat, c'est un peu vague. Qu'est-ce que ça va être vraiment l'année de la bande dessinée? C'est une opération, c'est une série de manifestations, c'est un label qui va être apposé à beaucoup de manifestations déjà existantes. Pierre Lungaretti, peut-être d'abord.
Mais c'est un peu tout ça à la fois. C'est un coup de projecteur sur l'art de la bande dessinée et sur sa diversité et sur ce qu'il est devenu. C'est vrai que moi je l'ai proposé dans le cadre du rapport que j'avais remis à Franck Riester en janvier 2019. C'était ma première proposition sur 54 propositions. Et ce qui me semblait important, c'était d'accélérer la prise de conscience sur la place qu'occupe désormais la bande dessinée dans le paysage artistique et culturel contemporain, qui est celle qui s'est totalement métamorphosée. C'était un secteur quasi marginal il y a 30 ans, qui est devenu un secteur qui irrigue et qui nourrit beaucoup d'autres expressions artistiques, le cinéma, les arts plastiques, les jeux vidéo et évidemment le cinéma d'animation, et qui s'est beaucoup diversifié, investi des territoires esthétiques tout à fait nouveaux, avec une prolifération des, sous-genre. Et je crois que l'objectif, en tout cas moi ce que j'avais en tête quand j'ai proposé cette opération, cette manifestation, c'est de rendre plus perceptible cette évolution, cette richesse et à quel point la bande dessinée peut nous ouvrir sur beaucoup de sur une diversité de formes qui sont très riches et très nouvelles.
Mais alors Emmanuel Ben-Simon-Veller, dans la conférence de presse de lancement, il y avait Jules. Alors il faut dire d'abord qu'il y a quatre parrains, quatre auteurs qui parrainent cette année de la bande dessinée. Jules, Loisel, Florence Sestac et Catherine Meurice, qui sera notre invitée la semaine prochaine. Jules, qui avait pris la parole, avait dit 2020, année de la BD, ce ne sera pas les Miss France de la bande dessinée. Vous n'êtes pas responsable de ce propos, je ne vais pas vous demander de nous détailler ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette année très concrètement, d'abord peut-être pour le public, qu'est-ce que le public va pouvoir aller voir ou va pas pouvoir faire ?
Bien sûr, alors, très concrètement, avec la Cité internationale et avec aussi les services du ministère qui ont participé à l'élaboration de cette année de la BD, pour répondre à la demande du ministre de faire de l'année 2020 une année de la BD, nous avons conçu une année particulièrement riche en événements, avec à chaque fois au cœur de ces événements, bien sûr, les auteurs et les autrices de BD. Et très concrètement, BD 2020, ce sera quatre grands types d'événements.
Donc c'est BD 2020 qu'il faut dire.
Moi, je disais alors BD on dit 2020. BD 2020, le ministre dit BD 2020. Bon. D'accord. Pour le coup, on n'a pas arrêté de position là-dessus. En tout cas, donc, concrètement, on aura quatre grands types d'événements. Tout d'abord, le CNL aide traditionnellement, dans le cadre des aides dont je vous parlais tout à l'heure, 14 festivals de BD. Et nous leur avons demandé, pour l'année de la BD, de concevoir et de déployer donc une programmation tout à fait particulière qui sera conçue pour BD 2020 et donc qui se déroulera tout au long de l'année et qui seront des temps forts, bien sûr, de cette année de la BD. Deuxième type d'événement, les DRAC, qui sont les directions régionales des actions de l'action culturelle du ministère, vont soutenir plus d'une cinquantaine de projets partout dans tous les territoires. Alors donc ils sont nombreux.
Des expositions.
Alors des expositions, pour vous citer un exemple d'autres, la bibliothèque municipale du Havre par exemple consacrera le week-end du 20 mars à la BD par des expositions de planches originales, des ateliers avec les enfants, des tables rondes avec des auteurs et des autrices. Troisième type d'événement, le Centre National du Livre organisera 5 grands rendez-vous BD dans 5 grandes villes de France. Ce seront également bien sûr des temps forts. Et puis, quatrième type d'événement.
Alors là, ce sera plus des colloques universitaires, enfin, ou ce genre de...
On est en train d'y travailler, mais non, ce sera plus des événements populaires visant à faire connaître, comme le disait Pierre, la diversité, la richesse et l'excellence française en matière de bande dessinée. Et alors, le quatrième type d'événements, ce sont tous les événements qui sont en train de s'organiser, qui sont référencés sur le site de BD 2020, que je me permets de citer, qui est www.bd2020.culture.gouv.fr.
Et on mettra le lien sur le site du Rayon BD, bien
Parfait.
Sûr.
Parfait. Alors, aujourd'hui, on est à plus de 500 événements, et parmi ces événements, on trouve donc des expositions BD dans des musées, par exemple le musée Picasso aura une grande exposition Picasso et la BD, une nocturne au musée du Louvre, des conférences et des masterclass au Collège de France, aux Beaux-Arts de Paris. On aura également, grâce au partenariat que nous avons noué avec le ministère de l'Éducation nationale, une BD plus présente à l'école.
Alors il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle BD en classe qui vient d'être présenté, fait par le syndicat national de l'édition.
Tout à fait.
Voilà, pour le cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e.
Exactement, et on va inciter le SNE à référencer cette publication dans nos événements. Nous avons aussi noué un partenariat avec le ministère de la Justice pour que la BD puisse être présente dans les prisons. Par des expositions et il y aura des résidences d'auteurs BD qui seront organisées par le ministère des Armées et le ministère de la Défense. Nous avons aussi des partenariats avec la SNCF, le métro et donc la BD sera présente dans les gares, sur les autoroutes, dans certains aéroports. Et puis pour être tout à fait complète, la BD sera aussi présente à l'international puisque grâce à l'Institut français, tout un programme et une programmation à l'international a pu être développé pour BD 2020.
Très bien. Alors donc le programme est riche. Je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1982 et qui nous montre que la prise en charge de la bande dessinée par le ministre ou le ministère de la Culture n'est pas une idée neuve, même si c'est maintenant que ça se concrétise.
Eh bien, nous trouvons actuellement au 1 rue de Valois dans le salon d'apparat dit Salon Jérôme, où pour la première fois un ministre de la Culture a accepté de recevoir le petit monde de la bande dessinée.
Angoulême, les auteurs de bande dessinée ont parlé de leur futur, de l'avenir, de ce qu'ils pourraient faire dans la vidéo, dans l'animation. Pensez-vous qu'il y a un futur particulier de la bande dessinée, un avenir de la bande dessinée?
Je pense qu'il y a un très grand avenir pour la bande dessinée et qu'il y a, pour parler en termes économiques, beaucoup de débouchés. La vidéo, la publicité, le cinéma, la presse. Alors il faut que de notre côté, nous donnions le coup de pouce nécessaire, que nous incitions les télévisions à mieux faire aimer la bande dessinée. Et par bonheur, cette émission, la vôtre, existe aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il faut que nous aidions aussi, que nous encouragions les journaux à publier les auteurs français plutôt que de faire appel à des bandes dessinées stéréotypées achetées à bas prix auprès d'organismes multinationaux. Alors je mets au point avec le Centre national des lettres un système qui encouragerait les directeurs de journaux français à donner leur chance à de jeunes dessinateurs. Parce qu'il faut aussi qu'on renouvelle les talents et qu'on donne la possibilité de travailler à des tout nouveaux.
Alors, les auditeurs auront peut-être connu le ministre de la Culture de 1982, Jack Lang, qui évoque le Centre National des Lettres, l'ancêtre du Centre National du Livre que vous dirigez, Emmanuel Ben-Simon-Veller. Les intervieweurs, c'était, pour ceux qui connaissent aussi le monde de la bande dessinée, Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre, donc en 82, dans une émission qui s'appelait L'Impeccable. Alors Pierre Lungheretti, le ministère de la Culture qui s'intéresse à la bande dessinée, c'est pas tout neuf, mais cette année 2020 de la bande dessinée, c'est donc, vous nous l'avez dit, une proposition que vous aviez faite dans un rapport que vous aviez remis au ministère de la Culture pour développer, faire reconnaître les évolutions de la bande dessinée depuis 30 ans. Il y a quelque chose qui est peut-être au cœur de cette année de la bande dessinée dont on n'a pas encore trop parlé, c'est la recherche. Est-ce que la recherche, la recherche critique, la recherche universitaire, le discours intellectuel qui existe, bien sûr, peut-être en France particulièrement depuis déjà longtemps, est-ce que ça, il y a des actions qui vont être menées dans 2020, année de la bande dessinée ?
Oui, alors peut-être en élément de contexte, il faut indiquer que la recherche a beaucoup progressé dans le domaine de la bande dessinée, puisque il y avait une quinzaine de thèses dans les années entre 70 et 80 de mémoire, et que depuis 2015, il y en a presque 30 qui ont été publiées et soutenues, et qu'il y en a beaucoup en préparation. Donc il y a une appétence de plus en plus forte de la part des chercheurs. Ce qui manque probablement, c'est une meilleure structuration de cette recherche. Elle est très éclatée sur le plan institutionnel. Comme dit Pascal Horry, elle est un peu en contrebande dans des UFR d'histoire, de sociologie, de littérature, et que ça nuit à la visibilité de cette recherche et probablement aussi à son attractivité, peut-être aussi à une forme d'exigence, d'auto-exigence des chercheurs eux-mêmes. Emmanuel y a fait allusion, le Collège de France va faire des propositions dans le cadre de cette année de la bande dessinée. Il y aura un certain nombre de colloques universitaires consacrés à un certain nombre de thématiques liées à la bande dessinée.
On en connaît déjà une ou deux de ces thématiques.
Oui, autour de la bande dessinée de la science, par exemple, autour de thématiques liées à la bande dessinée et le numérique. Donc il y a bien plusieurs sujets qui seront abordés, et ça permettra là encore probablement de faire avancer cette présence de la bande dessinée à l'université dans un sens d'un meilleur ancrage et d'une meilleure identification.
Alors on évoquait le discours savant sur la bande dessinée. Ce discours savant est né en France peut-être au milieu des années 60 ou au début des années 60 avec entre autres une personnalité importante, Francis Lacassin, qui avait créé le club de bande dessinée qui est devenu par la suite le CELEG, Centre d'études des littératures d'expression graphique. Je voudrais qu'on écoute une archive de Francis Lacassin en 1965 et vous réagirez peut-être après, Pierre Lungheretti, sur le chemin parcouru depuis et la situation des auteurs dont on va parler dans la suite de l'émission.
Est-ce que vous pouvez nous préciser les buts que s'est fixé le Club des bandes dessinées ?
Eh bien, d'abord rassembler d'une manière générale tous les gens, lecteurs, éditeurs, auteurs, dessinateurs, sociologues, chercheurs, qui s'intéressent pour quelque motif que ce soit à la bande dessinée. C'est-à-dire que ce club est ouvert à tous et qu'il accepte tous les gens qui veulent bien le rejoindre. C'est le premier but. Deuxième but, rééditer certaines bandes dessinées classiques, parce qu'il y a quand même des classiques en matière de bandes dessinées, comme en littérature ou en peinture, les faire connaître. À partir de ces classiques, essayer de dégager une esthétique de la bande dessinée, essayer de définir la bande dessinée de demain, et surtout protéger la bande dessinée. Aussi bien contre le mépris dont est encore l'objet chez certains retardataires, que la défendre contre ses propres auteurs, c'est-à-dire contre ceux qui voient une vulgaire marchandise propre à apporter de l'argent, contre les censures, contre les éditeurs qui parfois la maltraitent, la coupent, la mutilent, la transforment. Et d'une manière générale, encourager les bonnes bandes dessinées, essayer d'attaquer, de critiquer les mauvaises, encourager en somme la diffusion de la bande dessinée de qualité.
Pierre Lombieretti, c'est un beau programme, ce programme qui était celui du Club des bandes dessinées de Francis Lacassin en 65. Je vous demandais si du chemin a été parcouru, parce qu'il y a cette chose un peu étonnante qui dit protéger la bande dessinée de la censure, des retardataires bien sûr, mais protéger la bande dessinée de ses auteurs et de ses éditeurs. Bon, il explique pourquoi, c'est-à-dire pour élaborer une bande dessinée de qualité. Aujourd'hui, comment est-ce que vous entendez ce genre de propos ?
Non, mais je pense que Francis Lacassin avait compris beaucoup de choses, qu'il s'exprimait à la suite d'un héritage qui était celui de la loi de 49,
sur les publications destinées à la jeunesse.
Voilà, qui a un peu bridé la bande dessinée. Donc, je pense que quand il fait référence à la censure, c'est au regard de cette loi qui interdisait toute représentation de forme amorale ou immorale de l'activité humaine. Alors évidemment, les choses ont beaucoup changé puisque mai 68 est passé par là, que la bande dessinée pour adultes a explosé grâce à des visionnaires comme René Goscinny avec Pilote, et puis beaucoup d'autres, enfin je veux dire qui ont Pilote a ouvert la voie, mais il y a eu énormément de revues, que ce soit Métal Hurlant, L'Écho des Savanes, enfin on les connaît très bien, et elles ont fait un travail considérable dans ce domaine. Et en revanche, là où je rejoins Francis Lacassin, je crois que la question de l'éducation à la bande dessinée et à une forme d'exigence en bande dessinée est un vrai sujet, et que cette question, au-delà de ce que permet la bande dessinée en termes de réussite éducative, qui est avérée par les expériences qui sont conduites, je pense que un des chantiers, et on s'efforce avec le Centre National du Livre à créer les conditions de ce type d'action, de donner le goût à une forme de bande dessinée exigeante, innovante, qui ouvre des horizons artistiques inédits.
Alors, puisqu'on parle des auteurs, il faut quand même en parler un petit peu. Bien sûr, les auteurs, vous l'avez dit, tous les deux vont être au cœur de cette année de la bande dessinée. Mais les auteurs ont parfois déjà manifesté, sinon des critiques, en tout cas manifesté leur vigilance quant à ce que sera cette année 2020 de la bande dessinée. Il y a eu une première polémique sur l'affiche, puisque le ministère de la Culture avait commandé une affiche en ouvrant un concours aux dessinateurs qui avaient déjà publié entre 1 et 5 livres, mais sans prévoir de rémunération pour ceux qui participeraient à ce concours. Ça a été corrigé, mais aujourd'hui, un organisme comme le SNAC BD, c'est-à-dire le Syndicat National des Auteurs de Bande Dessinée, a publié il y a quelques jours un communiqué sur son site dans lequel il dit, je cite, « Refuser cette absurdité mortifère d'un marché BD » entre guillemets, dynamique et florissant, se faisant sur le dos de celles et ceux qui en sont la source, les auteurs et les autrices, sempiternelles variables d'ajustement. Alors, Emmanuel Ben-Simon-Véler, ces auteurs qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir avoir des conditions de vie et de rémunération et de retraite et de droits d'auteur et de toutes ces choses-là, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Comment est-ce que ça va se passer pour les auteurs de bande dessinée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au-delà des bourses que le CNL accorde? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont être mises en place pour aider le secteur de la bande dessinée et ses ouvriers qui sont les autrices et les auteurs?
Alors c'est une dimension très importante de BD 2020 que le ministre a souhaité et qu'il a présenté lors de la conférence du 18 décembre dernier. Il a souhaité que BD 2020 soit vraiment un espace de réflexion et d'action concernant la situation des auteurs de BD. Et très concrètement, il a fait trois annonces importantes. La première, donc, il a annoncé que le ministère financerait une étude sur la situation des auteurs de BD. dont le cahier des charges sera d'ailleurs rédigé par les organisations syndicales d'auteurs de BD. C'est une étude qui prendra le relais de l'étude de 2015 et qui permettra d'avoir donc une image très précise de cette situation sociale que vous évoquiez.
L'étude de 2015, c'était celle qui avait été menée par les états généraux de la bande dessinée et qui disait quand même, il faut le rappeler, que un tiers des auteurs de bande dessinée, enfin d'après cette étude, vivaient en dessous du seuil de pauvreté et que la moitié, ou même plus de la moitié, vivaient avec le SMIC ou, enfin plutôt moins que le SMIC pour un auteur sur deux.
Tout à fait.
Il va y avoir une nouvelle étude qui sera menée avec d'autres outils, puisque ce sera le ministère, ce ne sera pas simplement déclaratif, mais c'est le syndicat des auteurs de bande dessinée et les associations d'auteurs qui vont faire le cahier des charges. C'est ce que vous nous
dites. Tout à fait, exactement. Mais ce sera un financement donc du ministère, donc pour permettre d'avoir une situation, une image claire de la situation. Deuxième annonce forte qui a été faite, il a donc décidé de mettre en place une aide à l'achat de matériel pour les auteurs de BD, à hauteur des besoins de ces auteurs. Aide qui sera d'ailleurs, dont il a annoncé la pérennisation au-delà de l'année de la BD, mais c'était une demande également des syndicats. Troisième annonce forte, qui rejoint un des sujets que vous évoquiez, il a souhaité que BD 2020 soit aussi l'occasion de réfléchir pour les festivals de BD à un enrichissement de leur politique culturelle pour permettre que tout auteur de BD invité à un festival puisse être intégré à une activité collective en direction du public. Pour ce faire, il a mis à disposition donc des acteurs du secteur ses services, et notamment le CNL, pour engager cette réflexion. Et surtout, il a décidé de débloquer des moyens exceptionnels au CNL pour que le centre donc puisse aider de manière exceptionnelle et transitoire les festivals qui accepteront de rentrer dans cette réflexion et surtout de faire évoluer leur modèle donc pour permettre ce changement donc de leur programmation culturelle.
Donc concrètement, Pierre Lungaretti, est-ce que ça veut dire, puisque c'était une des revendications des auteurs de bande dessinée, que les auteurs qui viennent dans les festivals pour dédicacer leurs œuvres seront rémunérés?
Alors, comme l'a dit Emmanuel, le ministre a appelé à une réflexion collective autour de ce sujet, mais effectivement, l'idée est d'aller un peu au-delà de la question de la simple dédicace et de réfléchir à une rémunération de l'activité des auteurs pendant les festivals qui peuvent aller bien au-delà de la question des dédicaces. Et ce qui permettra de donner un certain nombre de réponses à des questions qui sont assez aiguës depuis un certain nombre d'années.
Ouais, ben, cette année de la bande dessinée qu'on souhaite excellente à tous les auditeurs du Rayon BD, à vous, au Festival d'Angoulême qui va se tenir dans quelques semaines. On n'a malheureusement pas le temps d'en dire quelques mots, mais le Rayon BD y sera bien entendu. On parlera de l'exposition Lewis Trondheim dont France Culture est partenaire, qui se tiendra à Angoulême jusqu'au 10 mai. De notre côté, nous pouvons aussi dire que France Culture va lancer cette année un prix de la bande dessinée. On vous en dira plus dans quelques jours, mais le Rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'une et l'autre d'être venus. C'est la semaine prochaine avec une des marraines de BD 2020 que nous continuerons notre programmation, puisque je recevrai Catherine Meurice qui nous parlera de Delacroix et d'Alexandre Dumas. Nous serons avec elle au Louvre. Nous avions fini 2019 au Louvre avec Émile Ferris. C'est au Louvre que nous continuerons cette année de la bande dessinée, comme quoi les institutions, les grandes institutions françaises ont à voir avec la bande dessinée. Le Rayon BD, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme d'habitude préparée avec Pascaline Bonnet, réalisée aujourd'hui par Alexandre Manzanares, avec à la technique Jacques Hubert. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet. Thank you.